BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de BFM Crypto, le club. Aujourd'hui, on répond à vos questions pendant une demi-heure. Les questions que vous nous avez posées à notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Vous continuez à nous les envoyer, que ce soit des questions de débutants ou des questions d'investisseurs habitués à ces sujets-là. Vous êtes les bienvenus, vos questions sont les bienvenues. Et comme tous les jeudis, c'est Morgane Landu, fondatrice de Crypto 360 qui est avec nous, et Enzo Allo, fondateur de Crypto Patrimoine. Merci à tous les deux d'être dans cette émission, le club BFM Crypto. C'est parti. Morgane, on va commencer par une question de Dominique qui nous dit: la semaine dernière, vous avez parlé d'une crypto qui pourrait à l'avenir détrôner le Bitcoin. Je n'ai pas retenu le nom de cette crypto. Est-ce que vous pouvez en reparler? Ça l'intéresse, Dominique.
Tout à fait. Alors, il y avait un auditeur qui m'a posé la question: est-ce qu'une crypto pourrait détrôner Bitcoin? Ma réponse était claire. Ma réponse était non. Pour moi, Bitcoin est indétrônable. Néanmoins, pour pas s'arrêter simplement à mon avis, j'ai donné deux pistes de réflexion. La première, c'est une théorie qui est très débattue dans la communauté, ce serait que Ethereum, la deuxième crypto en termes de capitalisation, puisse un jour dépasser Bitcoin. Pourquoi? Eh bien, parce que trois grands secteurs reposent finalement sur Ethereum. Le premier, c'est la tokenisation. Et on sait qu'il y a une demande assez importante de pouvoir notamment tokeniser des actifs financiers traditionnels, mais aussi les stablecoins. Et aujourd'hui, on a des sociétés qui créent leurs propres stablecoins. On a des États, on a des banques, donc une énorme demande pour les stablecoins. Mais aussi le monde de la DeFi, le monde de la finance décentralisée. Eh bien, ces trois secteurs, ils reposent principalement sur Ethereum. Et ensuite, la deuxième théorie qu'on entend très fort dernièrement, c'est avec l'explosion des stablecoins dont je viens de parler. Le favori, ce serait a priori le stablecoin le plus important au monde actuellement. Eh bien, c'est l'USDT de Tether qui pourrait, s'il continue à être autant adopté, aller chercher d'abord la capitalisation d'Ethereum et puis in fine peut-être un jour même de Bitcoin. Alors attention, on est en Europe et pour les Français et pour tous les Européens, nous n'avons pas accès à l'USDT sur la plupart des plateformes, tout simplement parce qu'il n'est pas compliant avec MiCA.
Oui, exactement. J'ai ce sentiment, on en parlait avant l'antenne, de parler en permanence de réglementation et des barrières. Alors certes, ça permet certaines choses, mais des barrières que ça met au secteur. Vous avez raison de dire qu'on n'a pas droit, effectivement, à l'USDT, Morgane. Une question pour continuer. Antonio vous demande, Enzo, Bitpanda a-t-elle la certification MiCA? Est-ce un site fiable?
Alors, eh bien, Bitpanda, effectivement, a reçu sa certification MiCA. Elle n'a en revanche pas eu son enregistrement en France, mais en Autriche, qui est le pays originel, en fait, de Bitpanda. En revanche, c'est pas trop spécialement pour moi une plateforme conçue vraiment pour les particuliers. J'ai juste fait une petite étude sur les prix et les frais de transaction entre ces différentes plateformes. Alors, vous allez pouvoir juger vous-même sur des frais de transaction spot, c'est-à-dire j'échange des euros contre des bitcoins à prix coûtant. Je suis généralement entre 0 et 2,49% de frais sur Bitpanda, ce qui représente une moyenne à 1,49% de frais. Quand sur Kraken, je vais être entre 0,20 et 0,40, c'est 6 fois moins.
Ouais.
Et sur Binance, en général, 0,10, 0,15, ce qui représente encore plus. Donc, attention, quand on choisit ces plateformes, c'est vrai que si je dois les classer, on va dire que Bitpanda est assez au cordeau sur tous les aspects réglementaires, sécurité, et donc vous les payez assez cher. Kraken va se situer au milieu, on est un bon mix entre la réglementation, la rapidité, etc. Et puis vous avez Binance qui là, pour le coup, sur le côté réglementaire, va clairement, c'est pas délaissé, mais pour le coup, c'est les plus gros, donc ils sont régulièrement tapés dessus. Et puis bon, ben là, vous avez des frais qui sont très peu chers du coup. Donc on paye le risque et on paye en même temps la sécurité.
Oui.
Donc voilà pour Bitpanda. Donc en revanche, ben, aucun problème pour continuer d'utiliser Bitpanda dans les mois qui viennent avec MiCA.
Oui, exactement. Effectivement, cette échéance arrive. On en parle aussi quotidiennement dans le club BFM Crypto. Isabelle vous demande, Morgane, quelles sont les possibilités pour transférer ces cryptos de Coinbase et Binance sans les vendre? Alors, d'abord sur un cold wallet ou sur une plateforme type Meria?
Tout à fait. Alors, j'aime bien cette question parce qu'elle me permet de parler d'un avantage qui est indéniable quand on parle des plateformes spécialisées dans l'univers des cryptos. Et pour les trois plateformes qui ont été citées, que ce soit Binance, qui est à la base plutôt une plateforme asiatique, que ce soit Coinbase qui vient des États-Unis ou Meria qui est française, eh bien, ces trois plateformes, elles ont l'avantage de vous laisser l'opportunité de sortir vos cryptos, c'est-à-dire de faire un transfert vers l'extérieur. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, c'est important parce que aujourd'hui, des personnes achètent des cryptos sur des plateformes qui permettent notamment, eh bien, d'investir en bourse et, par exemple, sur les cryptoactifs. Mais ils ne regardent pas un élément essentiel dont on a déjà parlé dans une précédente émission. C'est le fait de pouvoir sortir leur actif à un moment. Et des personnes se retrouvent avec des sommes colossales qui sont bloquées sur ce type de plateforme. Et donc, le gros avantage des plateformes spécialisées dans l'univers des cryptoactifs, c'est que vous n'avez pas besoin de vendre vos actifs pour les sortir. Vous avez donc pas besoin, par exemple, de payer la flat tax si jamais il y a une taxation qui peut être due dans le cadre d'une cession d'actifs pour les Français. Donc ici, gros avantage, vous avez la possibilité de transférer vos actifs vers une autre plateforme. Vous avez la possibilité aussi de les envoyer sur un portefeuille pour être dans une optique de self-custody, c'est-à-dire être 100% propriétaire de vos actifs et 100% responsable également, et la possibilité de les envoyer à qui vous le souhaitez partout dans le monde. Donc, pour répondre à la question de notre auditrice, oui, il est possible de faire un transfert de Binance vers Coinbase et inversement, puisqu'il n'est pas nécessaire de faire la vente de vos actifs. Vous avez toujours la liberté ici de transférer vos actifs vers l'extérieur. Et c'est une des raisons pour laquelle les trois plateformes dont on a parlé, eh bien, je les recommande, ne serait-ce que pour l'achat. Parce que justement, après l'achat, elle vous laisse cette liberté de jouir de vos actifs, c'est-à-dire soit de les laisser sur la plateforme si vous décidez de leur faire confiance ou de les envoyer par exemple sur un portefeuille extérieur.
On a déjà parlé, Morgane, de ces transferts d'une plateforme à une autre. Parfois, en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut prendre quelques temps, quelques semaines.
Alors, quelques semaines. En général, ça va vraiment plutôt dépendre de deux critères. Le premier critère, c'est quelle est la crypto que je veux envoyer et quelle est la blockchain que je vais utiliser. Parce que selon effectivement les blockchains, ça peut différer. Alors quelques semaines, ça me paraît quand même extrêmement long. Donc je ne sais pas de quelle blockchain on parle, mais de manière générale, effectivement, si on est sur Bitcoin ou Ethereum, bon, c'est censé arriver quand même dans la journée, même si ça dépend un petit peu s'il y a une congestion du réseau, mais de manière générale, ça ne dure pas plusieurs semaines. Si on utilise une blockchain, on va en fait dépendre plutôt de la blockchain. Par exemple, ça peut être intéressant pour les auditeurs qui nous écoutent et qui se posent la question, ben, j'ai envie de faire un transfert, mais j'aimerais bien que ça arrive très vite. Vous avez effectivement des cryptoactifs, des blockchains qui sont beaucoup plus rapides que d'autres et pour lesquels aussi ça va coûter beaucoup moins cher. Donc ici, ça va vraiment dépendre de quel est l'actif et quelle est la blockchain que je vais utiliser pour faire le transfert.
Ok, voilà pour les précisions. Frédéric nous demande, Enzo, savez-vous si la plateforme Nexo risque d'être prochainement interdite en France, car pas encore agréé MiCA.
Mais on revient encore à cette même discussion.
Oui, hein.
Donc malheureusement,
c'est
ça, la réponse va être assez courte. Aujourd'hui, effectivement, ils n'ont pas l'agrément MiCA. Et moi, je me rappelle toujours, quand on me parle de Nexo, j'ai toujours ce binôme gagnant d'il y a quelques années qui était Nexo et Celsius. Hein. C'était vraiment les deux plateformes qui s'étaient mises en avant via ce système de lending de crypto et le fait de pouvoir générer des intérêts comme assez facilement comme sur un compte bancaire. Celsius, aujourd'hui, n'existe plus. Hein. Elle a été mise en liquidation suite à des gros problèmes de gestion de trésorerie. Nexo, eux, étaient natifs à l'origine du marché du crédit institutionnel, donc avaient déjà cette notion de gestion du risque. Aujourd'hui, je pense que c'est un acteur plutôt sérieux. Ils n'ont en revanche pas encore obtenu leur agrément MiCA. Très clairement, la question à laquelle je ne peux pas répondre, c'est dans deux mois, si on est français et qu'on se considère « je veux un PSAN », un MiCA français, j'ai que 5 sociétés disponibles aujourd'hui. L'AMF n'en a délivré que 5. Je ne pense pas aujourd'hui que ça soit une bonne solution de centraliser le marché sur 5 acteurs français, ça va augmenter le risque. Tous les acteurs qui n'ont aujourd'hui pas leur agrément MiCA ne sont pas tous des acteurs à mettre à la poubelle.
Exactement.
Très clairement, il y a des acteurs qui sont très bons, mais trouver le financement, le temps, les humains, la technologie pour faire tout ça, ben en fait, ça prend plus qu'un an et demi parfois, contrairement à ce que l'AMF veut bien nous donner comme temps. Et donc, aujourd'hui, ben, je pense qu'il faut non plus pas trop se fixer sur au 30 juin, elle a l'agrément, elle n'a pas l'agrément, je coupe tout, je ne coupe pas tout. Il faut regarder un petit peu l'historique, peut-être pas tout de suite prendre tout au pied de la lettre, attendre un petit peu, alors pas non plus 6 mois. Si Nexo n'a pas son agrément 6 mois après la date, bon, bah là, je pense que malheureusement, il est quand même plus sûr d'en sortir. Aujourd'hui, c'est une question complexe.
Oui, c'est une question complexe que tous les acteurs se demandent, effectivement, qui sont dans cette situation. Mais vous avez raison de dire que c'est avant tout, ça a quand même mis très clairement des bâtons dans les roues de certaines entreprises, car beaucoup d'investissements, beaucoup de temps, des équipes entièrement dédiées au dossier MiCA qui, derrière, ne travaillaient pas sur le business.
C'est ça,
quoi.
Sur des réglementations qui ont changé début 2023, début 2024, début 2025, à chaque fois avec des coûts qui augmentent, des obligations qui sont rajoutées, des demandes en cybersécurité qui sont justifiées, c'est pas le problème. Le souci, c'est que là, aujourd'hui, clairement, pour des startups, c'est plus possible.
Ouais.
C'est terminé, ils ont tué un peu les projets dans l'œuf. C'est maintenant des réglementations bancaires. Est-ce que toutes ces sociétés-là, je pense que Nexo a plutôt un ADN bancaire à la base, je ne pense pas que ça va être un problème pour eux d'obtenir cet agrément-là, mais je pense à toutes les sociétés assez récentes qui ne sont pas adossées à des grands groupes. Aujourd'hui, on a de grandes chances de se faire fermer la porte au nez.
C'est pour ça aussi que beaucoup de spectateurs nous posent la question sur cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. C'est vraiment un point d'attention en ce moment, à 2 mois de cette échéance. Hilaire vous demande, Morgane, j'ai perdu en 2017 1000 euros par un groupe crypto-monnaie. Malgré des démarches, je n'ai jamais réussi à localiser la fraude. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Hilaire ?
Alors, je ne suis pas spécialisée sur la question, du coup, j'ai demandé à des experts et j'ai fait appel à un investigateur et un traceur de fonds Unchain, donc qui est vraiment spécialisé là-dessus. Et j'ai demandé aussi à une société qui défend justement les personnes qui ont été lésées et arnaquées dans ce type de situation. Alors, les deux sont d'accord sur 2 points qui vont concerner particulièrement notre auditeur. Et puis ensuite, je vais faire un point général. Le premier point, c'est la somme. Ici, on parle de 1000 euros. 1000 euros, malheureusement, ce n'est pas une somme assez conséquente pour pousser des démarches qui seraient beaucoup plus coûteuses. Par contre, ce qu'on invite vraiment les personnes à faire, même s'il s'agit de 1000 euros, c'est de porter plainte. Si vous portez plainte, dans ce type en fait d'arnaque et d'escroquerie, il y a beaucoup de victimes. Et le but, ça peut toujours en tout cas être intéressant, eh bien, d'avoir plusieurs personnes qui ont vécu la même expérience pour avoir un dossier beaucoup plus solide, tout simplement. Donc, il faut porter plainte. Le deuxième aspect qui est beaucoup plus spécialisé pour la question de notre auditeur, c'est aussi le délai. Malheureusement, il y a un délai qui peut être passé ici pour pouvoir faire quoi que ce soit par rapport à notre auditeur. Donc, c'est un délai de prescription qui peut aller aux alentours des 5 ans. Et donc, malheureusement, ici, dans le cas de notre auditeur, je pense qu'il a dépassé ce délai-là. Maintenant, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas de figure-là ? La première chose, c'est toujours retrouver la première transaction. Est-ce que la première transaction, elle s'est faite dans le cadre bancaire vers les arnaqueurs ? Dans ce cas-là, on se retourne contre les banques et on va voir les forces de l'ordre. Par contre, si c'est en crypto, là, un investigateur peut retrouver cette fameuse première transaction, regarder tous les chemins qui ont été pris par cet argent jusqu'à arriver à une plateforme. Et là, il va pouvoir générer un document, un dossier complet avec toutes les plateformes qui sont concernées, les montants aussi par plateforme et tous les contacts légaux par plateforme. Ça, c'est un dossier, un document qui peut être très intéressant si vous allez porter plainte, forcément, mais qui va même être obligatoire si on parle notamment de plateformes qui sont régulées, parce que vous allez devoir prouver que vous étiez bien le propriétaire des fonds en amont, en tant que personne qui a été malheureusement escroquée. Maintenant, petite parenthèse, ça coûte quand même effectivement de l'argent de générer ce type de document-là. Pour donner une idée aux auditeurs, on est plus ou moins aux alentours des 1 350 € pour générer ce type de document.
Oui, alors donc concernant Hilaire qui parle d'une somme de 1000 euros, effectivement, il faudra réfléchir à 2 fois. Une question de Milan pour vous, Enzo. J'ai utilisé Coinbase en 2025 pour tester la crypto. En 2026, j'ai tout rapatrié sur un wallet physique, Tangem, en self-custodial. Quand je vais sur l'application Base, je vois que mes fonds y sont toujours. Je sais que Coinbase est un wallet on-chain, mais du coup, je m'interroge quelle est la signification de disposer des mêmes cryptos à 2 endroits différents.
Alors, je vais essayer de rassurer un petit peu Milan. Donc, je ne pense pas qu'il puisse avoir les 2 mêmes cryptos dans 2 portefeuilles différents. Simplement, les cryptos, si vous voulez, les wallets, les cryptos ne sont pas déposés dans des wallets. Les wallets sont en gros ce qui permet d'ouvrir et accéder aux cryptos pour pouvoir effectuer des transactions. Ce que je pense plutôt, c'est que depuis Base, alors pour le coup, je connais ni Tangem ni Base, mais depuis Gem, il a pu plutôt importer sa seed phrase dans son portefeuille Tangem, ce qui fait que les 2 portefeuilles reflètent la même adresse publique. Ce qu'il faudrait donc vérifier, Milan, c'est quelle est l'adresse publique de mon portefeuille Tangem et quelle est l'adresse publique de mon portefeuille Base. Si ce sont les deux mêmes adresses publiques, effectivement, ben c'est juste une différence d'interface.
C'est un reflet, quoi.
Exactement. Ouais. Il y a une fois, je vois mon portefeuille sur Base et puis une fois, je le vois sur Tangem. Mais ça correspond au même portefeuille. Donc ça, c'est les premières choses à regarder. Et la deuxième, ça serait que le portefeuille Tangem, justement, affiche plutôt les fonds de Coinbase. Donc là, c'est à peu près la même chose. Donc en fait, là, il nous manque un petit peu d'infos pour pouvoir répondre vraiment. Est-ce que les deux adresses publiques sont les mêmes, oui ou non? Sinon, effectivement, ça mérite d'être un peu plus creusé. Peut-être parfois, et ça m'est déjà arrivé, on parlait d'arnaque juste avant avec Morgan, il est possible aujourd'hui de créer des USDT sur Solana qui vont s'appeler des USDT, mais qui vont avoir une valeur de zéro. Okay, c'est très facile de créer une crypto-monnaie, ça prend 20 minutes. Et donc parfois, j'ai vu des personnes victimes d'arnaque me dire, ben, j'ai 1000 USDT, mais sur mon portefeuille, c'est zéro, ou ça ne correspond à rien. En fait, là, il faut aller voir l'adresse du contrat des jetons qui sont dans le portefeuille pour voir si ce sont les jetons officiels qui ont été émis à l'origine. Et alors là, maintenant, on voit de tout. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui créer une crypto-monnaie qui s'appelle USDC, USDT, Bitcoin, tout ce que vous voulez.
Oui.
Mais vous la développez sur Solana, sur Tron, sur Avalanche, sur tout ce que vous voulez. Et donc, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment tout ça va voir qu'il a des BTC, des USDC, des USDT, mais en fin de compte, ce ne sont pas les vrais contrats. Donc là, on rentre un peu plus dans le détail.
Bon, on va commencer par lui, effectivement, conseiller publiques. De regarder si c'est la même adresse publique. Il y a des chances que ce soit ça,
je pense.
En effet. Alexandra, une fille, nous a écrit sur notre adresse et on en est très heureux. Nous demande, Morgane, je souhaite offrir pour les 16 ans de mon fils quelques Satoshi pour qu'il découvre le monde des cryptos, qui seront son futur avec certitude. Je sais qu'il ne peut pas les détenir en tant que mineur, donc j'ai prévu l'achat d'une ledger pour lui seul. Le compte sera accompagné d'un DCR mensuel. Je souhaite le limiter sur Bitcoin et Ethereum. Pour l'instant, est-ce que vous avez d'autres conseils pour lui, Morgane?
Oui, alors déjà, félicitations à notre auditrice parce qu'elle part sur une très très belle base. Premièrement, elle a compris déjà quelque chose d'essentiel et c'est toujours important de le rappeler, c'est qu'il ne faut pas acheter un Bitcoin entier, on peut acheter des petites parts d'un Bitcoin et la plus petite unité d'un Bitcoin, c'est un Satoshi. Elle parle de quelques Satoshi, donc bravo. Deuxièmement, elle parle du DCR, c'est une technique qui fonctionne très bien sur le long terme, donc on achète toujours un actif pour la même somme, peu importe son prix, avec la même fréquence. Sur le long terme, on sait que ça porte souvent ses fruits. Et puis, elle parle aussi de la licorne française, de Ledger. Donc, c'est-à-dire qu'elle est dans une idée de self-custody et de détention propre. Donc, vraiment, bravo. Alors, sans forcément faire du conseil, je vais lui donner quelques pistes parce que je pourrais dire beaucoup de choses. La première, ce serait par rapport au Ledger. Ça va être important pour elle d'expliquer à son fils que le Ledger, il faut faire des mises à jour. J'ai des gens qui viennent me voir, ils n'ont pas ouvert leur Ledger depuis 1 an, 2 ans. Et malheureusement, ça peut poser des problèmes. Donc, je recommande vraiment d'expliquer qu'il faut connecter son Ledger et faire des mises à jour. Elle a parlé d'un DCR mensuel, si je ne me trompe pas. Donc peut-être qu'une fois par mois, ça peut être pertinent de le faire. La stratégie du DCA, moi, j'aime beaucoup. Ce qu'elle peut comparer, c'est peut-être, est-ce que les frais sont plus intéressants si elle fait le DCA en manuel depuis le job pour son fils et puis son fils le fera pour lui-même? Ou est-ce que c'est plus intéressant de le faire en extérieur? Et là, elle va payer non seulement les frais d'achat sur la plateforme, mais aussi les frais de transaction sur la blockchain. Donc là, j'invite peut-être notre auditrice à faire un petit comparatif pour voir ce qui pourrait être le plus intéressant pour elle. Et puis, elle nous parle de deux actifs, Bitcoin. Bitcoin, c'est un actif d'avenir qui est de plus en plus rare, qui est de plus en plus demandé. Donc, c'est une très bonne idée. Pour moi, il a un avenir prometteur. Alors, Ethereum, pourquoi pas? Maintenant, attention, il est beaucoup plus jeune, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus risqué que Bitcoin. Actuellement, Ethereum est la deuxième crypto en termes de capitalisation. Est-ce qu'elle le sera toujours dans quelques années? Seul le temps pourra répondre à cette question. Par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment ici de se dire que comme son enfant est jeune, moi je serais très curieuse de voir quand il aura 20 ans, 25 ans ou 30 ans, où notre écosystème en sera. Et je pense qu'il sera beaucoup plus normal d'avoir des cryptos que de ne pas en avoir.
C'est effectivement une très bonne démarche avec des bases très solides que propose Alexandra et on est ravis qu'elle nous ait écrit sur cette messagerie. Continuez à nous poser vos questions. Michel nous demande, Enzo, pouvez-vous m'expliquer à quoi correspondent les UTXO dans les frais de transaction de Bitcoin?
Eh bien, simplement, les frais de transaction, les UTXO, pardon, ce sont les frais de transaction non dépensés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On parle souvent d'un portefeuille Bitcoin. En fait, il faut savoir que c'est pas un solde unique, un portefeuille Bitcoin. En fait, un portefeuille Bitcoin, c'est l'ensemble des additions gestion de toutes les transactions in and out, donc en entrée et en sortie, qui constituent ce portefeuille. Donc, généralement, si j'ai un bitcoin, admettons, sur mon portefeuille, je ne l'ai pas acheté. Enfin, ça peut, mais je n'ai pas acheté un bitcoin d'un coup. Et donc, j'ai acheté des morceaux de bitcoin, ce qui fait que toutes mes transactions sont réparties sur plusieurs blocs. Donc, en fait, chaque morceau de transaction de bitcoin correspond à un UTXO. Alors, à quoi ça sert, en fait? Simplement, alors, pour bien comprendre, si on compare ça un petit peu aux monnaies physiques, si je prends un portefeuille bitcoin, faut imaginer que dans mon portefeuille bitcoin, je peux y mettre à peu près toutes les pièces de toutes les tailles, de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, jusqu'à 200 euros, etc., des billets. Mais en fait, au moment de réaliser une transaction, admettons, Sandra, on a deux transactions à faire. Je vous propose, pour une transaction de 100 euros, je vous la paye une fois avec un billet de 100 euros, je vous la paye 100 fois avec une pièce d'un euro. Eh ben, 100 fois avec une pièce d'un euro, ça prend plus de temps, ça prend plus de place. Un portefeuille Bitcoin qui a été alimenté par de multiples transactions, donc de multiples UTXO, va avoir des frais de transaction plus chers, puisque chaque opération va demander une taille d'octet par mégabit plus élevée que si j'ai une seule transaction qui rapporte au solde unique de mon portefeuille. Alors j'espère que j'ai été assez clair dans cette dernière partie, mais d'une manière générale, plus... j'ai à compter et plus ça prend de place, en gros, le nombre de transactions, plus ça va me coûter cher. Donc, ce qui est intéressant, si on résume à peu près ça, c'est que Bitcoin facture la complexité de la transaction, pas le montant. Donc, quand j'ai fait de multiples opérations, et on en avait parlé la dernière fois, on peut appeler ça aussi des dusts, un petit peu des poussières de crypto, parfois ça peut être intéressant de faire une opération qui va rebasculer, on va dire, une transaction sur moins de blocs et concentrer cette poussière pour ensuite avoir moins de frais de transaction. Voilà à quoi ça correspond.
Voilà, c'est noté pour Michel. Paul s'interroge, sa question est intéressante. Il vous demande, Morgan, pourquoi les grandes banques achètent du Bitcoin en secret pendant qu'elles le déconseillent à leurs clients? Alors, je ne sais pas si on en est là encore aujourd'hui, hein, parce qu'on le dit depuis plusieurs semaines, les banques se mettent beaucoup, beaucoup aux crypto dernièrement. Mais en tout cas, c'est le sentiment de Paul, Morgan.
En effet, en fait, on voit qu'il y a un changement de positionnement qui est assez intéressant à observer. C'est-à-dire que même les banques qui ne recommandent toujours pas notre secteur sont capables aujourd'hui d'offrir à leurs clients des options pour s'exposer à notre écosystème. Alors, est-ce qu'elles achètent massivement pour leur propre bilan? Pas vraiment, même si certaines peuvent le faire via les produits justement qu'elles vont proposer. Par contre, la manière dont les banques s'investissent dans notre secteur actuellement, c'est en proposant notamment l'achat et la vente de cryptoactifs, la conservation aussi sécurisée. On peut parler notamment de la banque Delubac, qui est française et pionnière sur la question. Elles peuvent aussi devenir émetteurs, distributeurs d'ETF ou d'ETN. Et là, je pense à BNP Paribas, qui depuis 2026 propose 6 ETN, Bitcoin et Ethereum, alors qu'ils ne recommandent toujours pas notre écosystème. C'est vrai que c'est paradoxal. Et puis, il y a des banques aussi qui vont créer leur propre crypto, leur propre stablecoin lié à l'euro et compliant avec MiCA. Et là, je pense à la Société Générale Forge. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on a un cadre réglementaire qui est clair. En Europe, on a MiCA. Aux États-Unis, il y a eu des belles avancées aussi. Et c'est la raison pour laquelle les banques aujourd'hui, qu'elles soient pour ou qu'elles soient contre, elles ont l'opportunité de vous proposer ces solutions. En conclusion, je dirais que 11% des Français aujourd'hui possèdent des cryptoactifs, selon le dernier baromètre de la DAN. Et je pense que les banques ont compris que c'était que le début.
Oui, et ça fait des produits financiers basés sur le Bitcoin que l'investisseur lambda ne comprend pas forcément. En tout cas, les banques, à terme, vont finir par savoir très bien expliquer comment on peut acheter ces produits financiers qui sont basés finalement sur des cryptos. Une question de Clara pour vous, Enzo. Pourquoi avoir besoin de tiers de confiance dans les transactions financières et pourquoi Bitcoin remplit-il ce rôle?
Question passionnante. Oui. J'essaie d'être assez court pour y répondre. Alors, la manière dont j'aime bien aborder les choses...
Vous avez 3 minutes.
Ouais, ça va être compliqué. Alors, il y a 3 concepts, en gros. Donc, on va essayer de faire une minute par concept. Le premier, c'est que, si vous voulez, on fait un petit retour dans le passé et on regarde dans l'historique. C'est-à-dire qu'on retrouve les premières traces d'échanges entre les peuples au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et ce qu'on imagine, c'est qu'avec la sédentarisation et l'expansion des cités-États, est né le métier de banquier d'aujourd'hui, puisque pour pouvoir assurer le change entre ces différentes cités-États, est né le métier de banquier. Alors, simplement, il y avait des bancs à l'entrée de ces cités avec des gens qu'on appelait des bancas qui étaient assis sur ces bancs, qui sont devenus les banques, qui s'assuraient de pouvoir faire le change entre les différentes cité-État. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a la première apparition, on va dire, d'un tiers de confiance qui va venir assurer une transaction. Et pourquoi ? Puisqu'il y a toujours une asymétrie de l'information lorsqu'on fait une transaction. Un exemple très simple, si je vends ma voiture, moi seul sais la manière dont je l'ai entretenue, comment je l'ai conduite, etc., etc. Celui qui achète n'a aucune information. C'est là qu'on a une asymétrie de l'information. Ça, c'est un premier concept, ok ? Tiers de confiance, asymétrie de l'information. Deuxième concept, c'est ensuite, 16e siècle, on va dire, 17e siècle, c'est chez les Génois, puis à Venise, l'invention du livre de registre. C'est-à-dire qu'au lieu de réaliser toutes les transactions au moment où ils doivent les réaliser, ils vont noter dans un grand livre l'ensemble de toutes les transactions qu'ils effectuent pendant l'année, et à la fin d'année, vont faire un bilan comptable de tous les crédits et débits qu'ils se doivent entre eux pour faire une opération dite de settlement. En fin d'année, plutôt qu'avoir fait toutes les transactions, on en fait une grosse qui va reprendre en cours toutes les dettes et tout ce qu'on a. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième, un peu plus récent, c'est, on va dire, l'effritement de la confiance qu'on a envers les institutions et le changement de, on va dire, méthode de tiers de confiance. Mmh. Facebook, aujourd'hui, c'est un tiers de confiance. LinkedIn, c'est un tiers de confiance. C'est-à-dire, si je vois une personne qui a 50 amis en commun avec moi, probablement que cette personne existe, qu'elle est vraie, etc. Donc, on a une évolution, on va dire, de ce que peut représenter un tiers de confiance de manière numérique. Okay. Et maintenant, si on mixe tout ça, ben, au début des années 80, vous avez un groupe de hackers, hein, qu'on appelle du coup les cypherpunks.
Cypherpunk.
Qui se sont dit, mais comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait se sortir de ces institutions et de leur contrôle sur les transactions? Et donc, comment, entre nous, opérer un réseau de paiement entre acteurs inconnus qui ne se connaissent pas? Et c'est là que naît la révolution, et en tout cas l'idée d'avoir une monnaie qui puisse être validée sans tiers de confiance et dans tout le registre accessible par tout le monde. Et là, donc, vous avez la définition de la blockchain par Bitcoin qui est en gros la gestion collaborative d'un registre distribué dans lequel on va noter toutes ces transactions-là. Donc ce registre-là, on repense à nos Génois. J'espère que c'est clair. Et donc, quand on a besoin de tiers de confiance, on a besoin de quelqu'un qui assure entre une personne A et B une transaction. En l'occurrence, dans le cas de Bitcoin, c'est donc un algorithme mathématique qui va le remplacer. Et pourquoi est-ce qu'il remplit ce rôle ? Parce qu'il est pareil pour tout le monde, que tout le monde y a accès, peut l'utiliser, et personne n'a un droit ou un pouvoir particulier en plus sur les autres. Donc je trouve que ça s'inscrit très bien dans une évolution du nombre croissant de transactions à l'échelle mondiale.
On a eu un petit cours d'histoire de la monnaie là, en quelques minutes, c'était hyper intéressant. Merci Enzo Allo, fondateur de Crypto Patrimoine, Morgane Landu, fondatrice de Crypto 360, d'avoir répondu à toutes ces questions. Vous continuez à nous écrire crypto au singulier @bfmbusiness.fr et à continuer aussi si vous avez d'autres questions pour approfondir tout cela. Vous nous écrivez évidemment, je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée.
BFM Business, BFM Crypto, le club.